m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je le dis avec courtoisie, mais...
Oui. Avec courtoisie,
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Calme ! Au secours !
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Et oui, bienvenue sur Radio Courtoisie dans Restons Courtois avec un plateau formidable puisque j'ai déjà avec moi, en face de moi, Tristan Chopin de Genvry. Bonjour, vous êtes avocat et en droit public. On va parler avec vous du référendum. Ensuite, Pierre de Nicolaï nous rejoindra pour parler des sénatoriales. C'est un délégué départemental de l'UDR dans l'Allier. Ensuite, Charles-Henri Gallois, le conseiller économique de Jordan Bardella, nous rejoindra. Évidemment, nous parlerons avec lui des propositions économiques du Rassemblement national. Et enfin, Thierry Mariani, député européen pour le Rassemblement national, viendra nous parler, lui, de l'international et du RN. Vous avez compris, c'est un sujet entièrement consacré au Rassemblement national. Il paraît que Marine Le Pen a de quelques chances d'accéder au second tour, voire même de le remporter. Je parle des présidentielles. Vous pouvez bien sûr nous écrire à courtoisie@rc.fr ou nous appeler au 01 46 51 00 85 01 46 51 00 85 pour nous faire part de ce que vous pensez, de ce que disent mes invités ou de ce que je dis moi-même. Vous avez le droit d'être critique, nous ricanerons, vous avez le droit d'être élogieux, nous applaudirons, vous avez le droit en fait de donner votre avis. Marine Le Pen dit qu'elle veut faire un référendum sur l'immigration. Et les gens accueillent cette idée avec plus ou moins de bonheur. Il y a un vrai débat qui s'est engagé entre juristes, entre avocats, entre membres du pays légal pour savoir si, oui ou non, l'immigration est un sujet de référendum, si la Constitution de la Ve République, telle qu'elle a été modifiée, permet ou pas de faire un référendum sur l'immigration. Avant qu'on descende dans les arcanes du droit public et de la Constitution, donc vous venez de publier justement une tribune dans Valeurs Actuelles où vous expliquez qu'en gros, il n'y a pas de problème. Donc j'espère que tous les gens du Rassemblement National iront sur le site de VA pour vérifier qu'il n'y a pas de problème. L'idée d'un référendum sur l'immigration, indépendamment donc de la Ve République, est-ce que ça vous paraît une idée française par rapport à l'histoire du référendum en France ?
Alors, bonjour Richard, merci beaucoup de me recevoir et bonjour à tous les auditeurs de Radio Courtoisie. Oui, ce serait effectivement une première dans l'histoire de France, puisque traditionnellement, un référendum en France, donc on appelle au peuple, l'ensemble du peuple de voter au suffrage universel, c'était exclusivement pour valider une nouvelle constitution. Il y a quelques exceptions. Avant la Ve République, c'est le Second Empire. La Deuxième République avec Louis-Napoléon Bonaparte et le Second Empire, puisque Louis-Napoléon Bonaparte a utilisé le référendum, qui en fait s'est avéré être un plébiscite, pour transformer la République en empire et ensuite faire valider des réformes sociales qu'il avait entreprises en 1870. Mais c'est vraiment une exception. C'est la Ve République, dans la Constitution, permet le recours au référendum autrement que pour modifier la Constitution, pour faire valider des lois, appeler au peuple pour voter directement des lois. Et ça, c'est une première. Donc, oui, ce serait une exception. Il y a eu, et notamment sur la Ve République, ça serait une première, puisque des lois sociales sur le sujet ont été. Enfin, il n'y en a jamais eu en réalité. Il y en avait seulement. C'était soit pour modifier la Constitution, ou.
Par exemple, l'élection du président au suffrage universel.
Exactement. Il y en avait. La ratification des traités de l'Union européenne et de la Constitution pour l'Europe. Donc, faire une référence.
Et on a vu ce qui s'est passé entre 2005 et 2007, et entre le non fermement établi et le fait que le traité de Lisbonne est passé outre en fait la volonté des Français. On a quand même l'impression que le général de Gaulle a proposé des référendums qui n'étaient pas uniquement sur le fait d'être élu au suffrage universel. Il y a eu plusieurs référendums jusqu'à celui qui où les gens ont voté non et qu'il a renvoyé dans ses foyers.
Mais donc, oui. Alors en fait, le général de Gaulle, c'est vraiment quelque chose à laquelle il tenait lorsqu'il a préparé cette constitution de la Ve République. Il voulait vraiment faire appel au peuple. Donc il a vraiment tenu à ce que la Constitution de la 5e prévoit un référendum avec l'article 11 pour faire autre chose que modifier la Constitution, mais pour vraiment faire de la politique. Il en a usé, notamment le premier pour l'autodétermination de l'Algérie. C'est pas pour modifier la Constitution, ça c'était vraiment pour faire appel au peuple. Qu'est-ce qu'on fait pour de la grande politique? Donc il ne voulait pas passer par le Parlement, il voulait vraiment que ça passe directement par le peuple. Donc il y a eu l'autodétermination de l'Algérie, il y a eu les accords d'Évian sur l'indépendance de l'Algérie, puis il y a eu l'élection du président de la République au suffrage universel direct, et ensuite il y a eu la réforme du Sénat et, les régions, qui a été un échec complet, et ce à quoi ensuite il s'est senti contraint de démissionner en 1969. Ensuite, il y a eu l'élargissement de la communauté économique européenne. Ensuite, il y a eu le statut de la Nouvelle-Calédonie. Ensuite, il y a eu le traité de Maastricht. Ensuite, il y a eu le quinquennat. Donc ça, c'était Chirac qui l'avait entrepris en 2000. Donc là, on modifiait de nouveau la Constitution. Et ensuite, il y a eu, comme on en a parlé, le traité, la réforme du traité, la Constitution pour l'Europe, qui a été un échec.
Et à partir de là, plus rien, malgré notamment les promesses d'Emmanuel Macron d'organiser un référendum. Il en a parlé pendant son premier quinquennat. Il en a parlé pendant son deuxième quinquennat. Chaque année, on nous a dit « Attendez voir, l'année prochaine, la démocratie directe va ruisseler sur le bon peuple à peu près autant que les succès économiques de Macron » et zéro référendum. Pourquoi y a-t-il comme ça une crainte du référendum dans le personnel politique français, en tout cas celui qui est en place dans les partis de gouvernement, comme ils aiment à se nommer?
En fait, c'est malheureusement, c'est certains hommes politiques craignent qu'un non, que si le non l'emporte, ça les affaiblisse, ça affaiblit leur autorité. L'exemple concret, c'est De Gaulle en 69. Donc, pour la première fois, le non l'emporte sur un référendum qu'il a entrepris, il démissionne. Jacques Chirac, lorsqu'il y a eu la Constitution pour l'Europe, le non l'a emporté massivement, à 54%, et De Gaulle avait démissionné avec moins de ça. Donc, ça a été un échec, si vous voulez. Le dernier référendum était un échec pour le pouvoir en place. Ça a considérablement affaibli Jacques Chirac. Il n'a pas démissionné, certes, mais ça l'a affaibli. Donc il y a une crainte, il y aura une vraie crainte d'entreprendre un vote de nouveau pendant l'exercice du pouvoir qui pourrait ensuite affaiblir le président. Donc oui, ça fait 20 ans qu'on n'a pas eu de référendum, ce qui est la première fois dans la 5e République. On avait des référendums assez réguliers et là, plus rien.
Là, plus rien. Alors, Marine Le Pen dit « Votons sur l'immigration, organisons un référendum sur l'immigration ». Et tout de suite, les questions juridiques qui se posent, c'est « L'immigration est-elle un sujet référendaire ou non ?» Et en fait, cette loi sur l'immigration, ce référendum sur l'immigration, qu'est-ce qu'il va modifier? Est-ce que c'est une nouvelle loi? Est-ce qu'on a besoin de modifier la Constitution de la Ve République pour mettre en place une loi sur l'immigration? Et comment est-ce que cette loi française va s'intégrer dans l'ensemble plus vaste des règlements de l'Union européenne? Donc voilà, prenons ces trois questions dans l'ordre.
Dans l'ordre. Alors, il y a déjà un petit point, à mon avis, à affiner. Quand on parle de référendum sur l'immigration, ce n'est pas un référendum simple en réalité. Parce que dans la Constitution, il y a deux référendums possibles. Il y a l'article 11 et l'article 89. L'article 89, c'est pour modifier la Constitution. Et c'est d'une procédure très lourde. C'est-à-dire qu'avant de lancer le référendum, il faut d'abord que les deux chambres du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat, se mettent d'accord sur un texte. Il faut qu'ils soient d'accord ensemble sur un même texte. Donc déjà, il y a l'intervention du Parlement dans son ensemble. Une fois qu'ils se sont mis d'accord, là, on peut soumettre le texte à référendum ou... Le président de la République peut décider de réunir le Parlement en congrès, donc de ne pas soumettre le texte à un référendum et d'adopter de proposer cette modification au Parlement. C'est ce qu'a fait Sarkozy en 2008. L'autre référendum, c'est celui de l'article 11. Et ça, c'est l'innovation de la 5e République. C'est un référendum qui permet d'adopter des lois, donc pas en principe, de ne pas modifier la Constitution. Et donc ça, c'est par exemple pour modifier pour l'autodétermination de l'Algérie, comme on l'a vu. Ce que veut Marine Le Pen, quand elle dit référendum sur l'immigration, c'est en réalité modifier la Constitution. Ce n'est pas une loi simple qui va être une loi comme les autres, c'est vraiment modifier la Constitution. Mais c'est là qui est intéressant, c'est qu'on ne le dit pas expressément, parce qu'elle sait, et elle a raison, qu'elle ne va pas faire appel à l'article 89, mais à l'article 11. Et l'article 11... quand on le lit, ne permet pas à la lecture stricte du texte de modifier la Constitution. C'était une pratique qui a été faite par le général de Gaulle. Donc c'est là l'innovation. Donc en fait, ce que dit Quand on parle de référendum sur l'immigration, c'est une modification de la Constitution pour adopter des points clés de la réforme sur l'immigration voulue par le Rassemblement national.
Alors, ces points clés, vous les citez dans votre article, c'est la priorité nationale pour l'emploi, le logement social, certaines prestations sociales, supprimer le droit du sol, faciliter l'expulsion des étrangers délinquants, restreindre le droit d'asile. Donc, oui. Effectivement, c'est du lourd.
Et alors, tout à fait. Et Jordan Bardella l'a confirmé samedi sur BFM TV. Il a rappelé que dès l'élection présidentielle, Marine Le Pen allait dissoudre l'Assemblée nationale. On peut tout à fait le comprendre. Et faire immédiatement, enfin le plus vite possible, organiser ce référendum sur l'immigration avec ces quatre points-là. Ça a été confirmé par Jordan Bardella il y a deux jours.
Ah, donc, ces quatre points-là, ce sont des points sur lesquels, effectivement, on peut considérer soit qu'il s'agit de loi normale. Par exemple, alors, la préférence nationale, ça peut être une loi normale. Soit, au contraire, ce sont des lois comme supprimer le droit du sol, où là, on touche à des aspects constitutionnels.
Alors, c'est là que c'est intéressant, parce que en fait, à la lecture de ces quatre points, on pourrait se dire finalement une loi classique pourrait se ferait l'affaire. Alors, on pourrait faire appel au Parlement, adopter la loi, et ça ferait l'affaire. Sauf que si on prend l'option loi classique adoptée par le Parlement. Déjà, ça va être compliqué, puisque à supposer que Marine Le Pen l'emporte, que l'URN et l'UDR emportent les élections législatives dans la foulée à la suite de la dissolution de l'Assemblée nationale, le Sénat, lui, restera plutôt hostile. Donc il y aura la navette, ça va prendre du temps. Donc si Marine organise un référendum classique, article 11, sans préciser que c'est pour modifier la Constitution, ça deviendrait une loi référendaire, qui rentrerait dans l'ordre juridique. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le Conseil constitutionnel, en principe, s'il maintient sa jurisprudence, ne contrôlerait pas la conformité à la Constitution de cette loi-là, de ces lois-là. Ce qui est bien. Mais le problème pour Marine, c'est le droit international. Parce que les lois doivent respecter les traités internationaux.
C'est ce qu'on appelle hiérarchie des normes.
Exactement.
Et en fait, la loi constitutionnelle française est inférieure, entre guillemets...
Alors, pas la loi constitutionnelle, la loi tout court.
La loi tout court est inférieure aux traités internationaux oui. Et il y a d'autres normes qui surpassent la loi française.
En fait, la hiérarchie des normes, telle qu'elle est conçue en France et dans les pays européens, mais pas de l'Union européenne, on pourra y revenir. En France, au sommet, vous avez la Constitution. En dessous de la Constitution, vous avez les traités et accords internationaux, le droit de l'Union européenne et ce qui dérive du droit de l'Union européenne lui-même, c'est-à-dire les directives européennes et les règlements européens. Ensuite, vous avez la loi, donc adoptée par le Parlement. Et ensuite, vous avez les actes administratifs, les décrets, les arrêtés. Donc, et chaque norme doit respecter les normes supérieures. Donc, si vous avez une loi normale, elle doit respecter elle doit être conforme aux traités internationaux. Donc, si vous avez ces lois sur l'immigration, n'importe qui peut aller devant le juge français, parce que les juridictions nationales françaises sont aussi également les juridictions de l'Union européenne. Donc elles vont vérifier si ces lois sur l'immigration sont conformes au droit européen. Donc le sujet est droit de l'Union européenne, mais également à la Convention européenne des droits de l'homme, qui est un vrai sujet pour l'immigration. Et donc si les juridictions considèrent que finalement c'est contraire, elles n'appliqueront pas la réforme.
Mais elles diront que la réforme est nulle et non avenue. Et donc, c'est pour ça que, comme la Constitution est en haut de la pyramide, il faut une modification de la Constitution.
Exactement.
Et avec d'ailleurs une autre question qui se pose. Parce que là, pour le moment, il y a une espèce de fiction juridique qui veut que l'Union européenne peut prendre toutes les lois, règlements et directives qu'elle veut. Et il y a une transposition automatique dans l'espace français, uniquement parce que les juges constitutionnels considèrent que c'est leur bon vouloir qui permet qu'il y ait cette transposition automatique, parce qu'il y a une espèce de fiction qui nous dit que, fondamentalement, bien sûr, ils considèrent que la Constitution française est toujours au-dessus du lot, mais ils ont décidé qu'étant européen, il valait mieux que ça s'applique. L'Union européenne n'est pas du tout d'accord avec cette vision. Elle dit non, pas du tout. Vous faites ce que vous voulez avec votre Constitution, mais en fait, l'Europe supplante la Constitution française, allemande, italienne, de quelques pays qui adhèrent en fait à l'Union européenne d'une manière pleine et entière.
Et vous avez tout à fait raison, il y a un vrai sujet.
C'est parce que j'ai révisé en fait.
entre l'Union européenne et je garde l'exemple de la France. Donc la France considère que la Constitution est quand même supérieure au droit européen, mais ce n'est pas le cas de la Cour de justice européenne. La Cour de justice de l'Union européenne considère que finalement l'Union européenne est même au-dessus des constitutions. Alors, jusqu'à présent, on n'a pas eu vraiment on a eu, on va dire, de la chance. Il n'y a pas eu de vraie friction. Parce que finalement, chaque État fait bien son boulot, donc ça fonctionne. Mais si vous avez si jamais vous avez une norme constitutionnelle qui est contraire aux droits de l'Union européenne, ce qui pourrait être le cas, notamment si on modifie trop la Constitution, parce que c'est le sujet, c'est qu'en fait le RN veut modifier la Constitution pour être tranquille.
Ah ben, préférence nationale, c'est pas du tout européen.
Voilà.
Hein, c'est...
Donc, alors peut-être qu'on peut, on en reparlera sur le fond. Mais si la Constitution est contraire aux droits de l'UE, la Cour de justice de l'Union européenne va considérer que finalement le droit de l'Union européenne est supérieur à la Constitution française, donc la France méconnaît le droit de l'Union européenne, même avec sa Constitution. Et là, elle va considérer que la France est en défaut et peut être sanctionnée par l'Union européenne.
Alors,
c'est jamais arrivé.
Mais c'est jamais arrivé parce que pour le moment, on a toujours été des bons élèves européens,
exactement,
européistes même plutôt, unionistes en tout cas.
Exactement.
Mais dans la théorie française, la Constitution française reste bien supérieure aux lois, directives et règlements qui animent l'espace de
exactement
l'Union européenne.
C'est ce qui intéresse le RN. Ce que veut le RN, c'est que les juridictions françaises appliquent la réforme. Et pour ça, pour être tranquille, si je peux me permettre, c'est que la Constitution permette cette réforme. Elle soit intégrée dans la Constitution. Et là, il n'y a aucun sujet. Les juridictions nationales n'auront pas le choix, en principe.
Voilà. Donc, autrement dit, on n'aura pas de blocage intérieur de gens qui exciperaient d'une autre norme.
Exactement.
Alors, est-ce que, maintenant que le cadre est posé et qu'on voit bien que l'enjeu est véritablement constitutionnel et que ça ne peut pas être une simple loi, donc, cette réforme constitutionnelle est-elle possible ?
Alors, donc je vous ai expliqué, l'article classique pour modifier la Constitution, c'est l'article 89. L'article 89, il est lourd, donc il faut que le président de la République soumette un texte au Parlement, que le Parlement en discute et se mette d'accord. Donc là, il y a des négociations. Donc si l'UDR et le RN l'emportent aux législatives, l'Assemblée nationale sera favorable. Le problème, c'est le Sénat. D'ordinaire, pour une loi classique, le Sénat doit toujours n'a pas le dernier mot. C'est l'Assemblée nationale.
Donc, on l'a vu sur l'euthanasie.
Exactement. Si vous avez un Sénat hostile, l'Assemblée nationale favorable, ça va prendre plus de temps, mais a priori, vous allez y arriver. En revanche, pour modifier la Constitution, article 89, le Sénat est égal à l'Assemblée nationale. Donc si le Sénat n'est pas d'accord, il ne se passera rien. Donc là, il y a un premier sujet de blocage. Et c'est ce qui risque de se passer à la suite des élections présidentielles, parce que le Sénat sera sans doute hostile. Donc cet article 89 n'est sans doute pas la bonne option. Donc, Marine Le Pen a tout à fait raison de regarder une autre option. L'autre option, c'est l'article 11. Et là, il y a un vrai sujet juridique. C'est ce dont j'en parlais dans ma chronique, dans ma tribune dans Valeurs Actuelles. C'est qu'à la lecture de ce texte, ce n'est pas possible. Il ne permet pas de modifier la Constitution. Mais le général de Gaulle, qui a été élu en 58, il n'était pas élu au suffrage universel direct. C'est ça qui est intéressant de comprendre ce qui s'est passé. Il n'était pas élu au suffrage universel direct. C'était un collège électoral qui élisait le président de la République. Et de Gaulle, ça, il n'en voulait pas. De Gaulle, il voulait être élu par le peuple. Donc il avait obtenu son article 11 sur le référendum, mais pas l'élection du président lui-même au suffrage universel. Donc qu'est-ce qu'il fait 4 ans plus tard? Il prépare sa réélection. Il dit « je veux modifier la Constitution ». Il voit bien que le Parlement sera hostile. Le Sénat était extrêmement hostile à l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Donc il dit finalement « le voix du peuple, c'est la démocratie ultime ». Personne n'osera remettre en cause cela. Donc il soumet à référendum l'élection du président de la République au suffrage universel direct.
Alors, ce qui est forcé, en théorie, le texte, la lettre oui de la Constitution, mais mis devant le fait accompli, les pouvoirs publics décident très bien d'avaliser cette modification sauvage de la Constitution.
Il y a eu beaucoup d'opposition à l'époque. Le président du Sénat était extrêmement hostile. Il a saisi le Conseil constitutionnel tout de suite. Et en disant, mais finalement, c'est complètement illégal. Et le Conseil constitutionnel a dit, moi, c'est la voix du peuple. Alors, il dit, avant l'organisation des référendums, il dit, finalement, je ne suis pas compétent pour contrôler. Rien, moi, Conseil constitutionnel, me donne le pouvoir de contrôler la légalité du décret présidentiel d'organiser le référendum avant. Donc, il dit, je ne suis pas compétent.
Ça, c'était le Conseil constitutionnel avant.
Avant.
Voilà.
Après le référendum, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Après le référendum, là, on saisit de nouveau le constitutionnel. On dit, mais finalement, cette loi qui modifie la Constitution est contraire à la Constitution. Et le Conseil constitutionnel dit, moi, Conseil constitutionnel, je ne suis pas je ne peux pas remettre en question la volonté du peuple. Voilà. Qui suis-je ?
Parce que ça, justement, la volonté du peuple, elle est constitutionnelle. Pour citer exactement la Constitution, la souveraineté nationale appartient au peuple qu'il exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
Tout à fait.
Donc, autrement dit, la Constitution prévoit que le référendum est l'expression de la souveraineté populaire. Et c'est vrai qu'on n'imagine pas que un juge du Conseil constitutionnel, un membre du Conseil constitutionnel, même quelqu'un d'aussi intelligent et intègre qu'Alain Juppé ou Richard Ferrand, puisse évidemment aller à l'encontre de la souveraineté, de la volonté du peuple. Même si Laurent Fabius, lui, a expliqué qu'en fait, il se torchait de la volonté du peuple et que justement, au nom de l'article 89, n'importe quel projet de référendum passerait d'abord par l'autorisation préalable du Conseil constitutionnel qui déciderait que, en fait, le peuple n'a pas le droit de s'exprimer par voie du référendum, quand bien même le président en envie. Donc là, on voit bien qu'on a un problème franco-français d'interprétation de ce que c'est que la souveraineté populaire et que cette voie du référendum.
Oui, non, il y a un vrai déni de démocratie, hein, si on veut aller jusque-là. Et ce qui est amusant, c'est quand on regarde les travaux parlementaires des précédentes réformes constitutionnelles, celle de 74 et celle de 2000 et celle de 2000 et celle de 2000 pardon, excusez-moi, et celle de 2000 et celle de 1975. 1974, parce que c'est juste après. Donc, on modifie cette constitution avec l'article 11. Et en 1974, Valéry Giscard d'Estaing entame une modification de la constitution avec l'article 89, tel que c'est prévu. À ce moment-là, le Parlement, donc, qui est saisi de la question, en profite. Il dit, mais attendez, c'est parfait. On va tout de suite arrêter cette pratique de Gaulle. On va interdire d'utiliser l'article 11 pour modifier la constitution. Les amendements sont irrecevables parce que l'Assemblée nationale et le Sénat sont un peu gênés. Ils disent finalement, vous voulez modifier l'article 60 alors que la réforme porte sur l'article 61, vos amendements sont irrecevables. Donc ça ne va pas plus loin. Par contre, en 95, la réforme constitutionnelle porte précisément sur l'article 11. Pas sur la question de modifier la Constitution, mais sur le champ d'application. Alors là, de nouveau, le Sénat et l'Assemblée nationale sautent sur l'occasion pour dire « c'est terminé ». On va enfin pouvoir interdire le président de la République d'utiliser l'article 11 pour modifier la Constitution. Et pour cela, ils disent, on va permettre au Conseil constitutionnel d'intervenir en amont, avant l'organisation du référendum, pour contrôler la légalité du décret qui organise le référendum. Et là, le rapporteur, je l'ai noté, le rapporteur de l'Assemblée nationale, Pierre Mazeaud, dit, pour les juristes comme Georges Vedel, la modification de la Constitution par l'article 11 fait partie désormais du droit commun. Et ça s'arrête là. Tous les amendements sont rejetés.
Donc, on a le droit.
Exactement.
En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que voilà, on voit bien qu'à un moment donné, il y a 30 ans, on considère qu'on a le droit. 30 ans plus tard, avec le Bloc central étant au pouvoir et le PS ayant infesté l'intégralité des organes de l'État, dont le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État, on nous explique que non, c'est pas possible. Alors d'ailleurs, je recite d'ailleurs une partie de l'article 11. L'article 11 est possible de soumettre à référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics. Et la Constitution, justement, c'est l'organisation des pouvoirs publics. Donc on ne voit pas pourquoi il serait anti. La Constitution interdirait qu'elle soit modifiée elle-même. Par principe, il n'y a pas, une règle constitutionnelle qui empêche de modifier la Constitution. Voilà.
Alors, vous avez raison sur le fond, mais après, il y a la pratique. Et c'est là que c'est un peu étonnant ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel, parce que le Conseil constitutionnel, il s'arroge de plus en plus de pouvoir. Ça, on le voit constamment. Le Conseil constitutionnel, créé en 58, n'a jamais censuré une loi avant 1971. Pendant 16 ans, il a validé tout ce que faisait le Parlement. En 71, ça commence à changer. Et d'à partir de là, il s'arroge de plus en plus de pouvoir. Et alors qu'en 95, on dit expressément dans les travaux parlementaires que non, on ne donnera pas le pouvoir au Conseil constitutionnel de contrôler la légalité d'un référendum, de l'organisation d'un référendum avant qu'il soit organisé, c'est ce qu'il fait en 2005. En 2000, ça commence en 2000, donc là, il y a le référendum sur le quinquennat organisé pour modifier la Constitution, article 89. Et le Conseil constitutionnel dit « Finalement, la Constitution me permet, contrairement à ce qu'il avait dit 50 ans plus tôt, de contrôler le décret du président de la République qui organise le référendum. » Mais ça, c'est sur l'article 89. Et en 2005, il y a le référendum sur la Constitution pour l'Europe. Et là, c'est un article 11. Et le Conseil constitutionnel dit « je peux désormais contrôler le décret du président de la République qui décide de soumettre un référendum en vertu de l'article 11.
Alors, 10 ans plus tôt,
le Parlement disait qu'il n'allait pas lui donner
l'espoir. Donc ça, on est resté sur cette position 2005 et même elle n'a fait que se renforcer. On voit bien que le Conseil constitutionnel maintenant prend ce que fait le Parlement et le jette à la poubelle quand il en a envie, sans que le Parlement ne grogne. Et un auditeur de Radio Courtoisie nous dit « C'est un débat très savant, merci. Ça me rappelle l'œuf de Colomb et le nœud gordien. Quand la soupape a été bloquée par le machiniste zélé, c'est la chaudière qui explose et il faudra bien dynamiter. » Est-ce que Marine Le Pen peut envoyer paître, si j'ose dire, les gens du Conseil constitutionnel qui sont en fait dans l'interprétation du droit, il y a une fois plus. C'est uniquement des juristes, vous me pardonnerez, maître, qui entre eux se montrent le bourrichon et décident qu'en fait, pas du tout, ils déteignent un peu. Ils ont un pouvoir, ils jouissent d'un pouvoir exorbitant qui consiste à pouvoir censurer tout le monde. Et là, la nouvelle présidente, si tant est que, peut très bien dire non, vos interprétations sont fausses. Et d'ailleurs, j'ai une batterie de juristes qui se sont déjà exprimés, mais qui sont prêts à s'exprimer maintenant, et qui vous disent que vous, Conseil constitutionnel, vous ne pouvez rien faire.
Alors là, ce que vous dites est très intéressant, parce que premièrement, vous avez raison de dire le Conseil constitutionnel, finalement, la légitimité est un peu critiquable, parce que ce sont quand même 9 juges. Alors il y en a un, les anciens présidents de la République, plus 9 juges nommés. Il n'y a aucune élection, ces gens-là n'ont aucune légitimité, beaucoup moins légitimité que le Parlement lui-même. Donc, qui est un organe qui contrôle la Constitution, qui s'assure, pourquoi pas. Mais là, ça devient un co-parlement, finalement, le Conseil constitutionnel. Et si jamais il en vient à empêcher le peuple de s'exprimer, et c'est précisément ce qu'il n'a pas fait en 62, ils avaient très bien compris que c'est absolument impossible. Mais aujourd'hui, avec un gouvernement gouvernement RN-UDR, est-ce qu'il oserait le faire? Alors, s'il le fait, s'il empêche ça, malheureusement, comme le droit est écrit, il n'y a pas moyen d'aller à l'encontre. Donc on serait complètement bloqué. Le seul moyen de surpasser le Conseil constitutionnel, c'est de changer la Constitution en entier. Donc ça veut dire que ça serait une crise des institutions. C'est-à-dire que vraiment, on arrive à un blocage. On n'est pas très loin d'un blocage depuis Macron, avec l'élection de 2024. On voit bien qu'il y a la 5e République est un peu à bout de souffle telle qu'elle est. Si jamais le Conseil constitutionnel empêche Marine Le Pen de faire son référendum sur l'immigration, il n'y a pas d'autre choix. Je pense que là, et c'est moi qui parle, hein, c'est pas le politicien, d'aller vers une 6e République. Et là, Marine Le Pen peut le faire. C'est d'organiser un référendum indépendamment de la 5e République, et ça s'est fait tout au long de l'histoire de France, et de soumettre un texte complet à la France, au peuple français.
Alors, à votre avis, au point où on en est, parce que vous nous dites, ce serait quand même stupéfiant qu'un Conseil constitutionnel empêche le peuple de s'exprimer. On voit régulièrement des lois votées à la majorité au Parlement que le Conseil constitutionnel censure, vide de leur substance. On voit régulièrement des déclarations, en fait, des juges, enfin des membres du Conseil constitutionnel. Je citais Fabius, mais d'autres qui expliquent qu'en fait c'est eux qui décident et c'est pas du tout le peuple. Qu'en fait que l'état de droit, ça consiste à sacraliser la norme plutôt que l'esprit de la loi. Et c'est un Conseil constitutionnel avec Richard Ferrand, Alain Juppé, des gens nommés par Emmanuel Macron. Autrement dit, tous les adversaires du Rassemblement national sont au Conseil constitutionnel avec des gens qui ont déjà témoigné à quel point, sur ces questions d'immigration, et on l'a vu avec les lois timides qui essaient de passer récemment, à quel point la question de l'immigration est pour eux une espèce de tabou et qu'il est hors de question que la France commence à changer de paradigme.
En fait, c'est un peu le problème, c'est que ce Conseil constitutionnel devient une institution politique, alors qu'à la base, c'était une institution technique. Si on revient à l'esprit de la 5e République, pourquoi De Gaulle a voulu créer ce Conseil constitutionnel? Parce qu'il faut se remettre dans l'esprit de l'époque. On sort de la 3e République, on sort de la 4e République, où le problème, c'est que le Parlement avait tous les pouvoirs. Il faisait absolument ce qu'il voulait. Il changeait les 4e République, il y a quand même... la moyenne, c'est un gouvernement tous les 6 mois. C'est 24 gouvernements en 12 ans. Donc De Gaulle, il a très peur du Parlement. Donc ce qu'il a voulu faire, c'est mettre en place cette institution-là, à la base, pour contrôler le Parlement, pour qu'il arrête... Pour limiter le pouvoir du Parlement. Mais ça s'est retourné, en fait, contre le président de la République, à terme. Parce qu'à l'origine, le Parlement a l'initiative des lois, c'est lui qui fait la politique. Donc le président était content d'avoir cet organe qui, ne serait-ce que par son existence, faisait un peu peur au Parlement. C'est une sorte de garde-fou. Dans une constitution démocratique, c'est bien qu'il y ait des contre-pouvoirs. Mais à l'origine, la situation n'est pas mauvaise.
Voilà. Et à l'époque, le Conseil constitutionnel était constitué de juristes.
Exactement.
De gens qui connaissaient la loi.
C'était un organe technique. Et ça s'est transformé au fur et à mesure du temps, puisque le président de la République et le gouvernement ont commencé à avoir énormément, enfin, deviennent de plus en plus puissants. C'est eux qui sont à l'initiative des lois. D'ailleurs, les députés disent régulièrement que finalement, l'Assemblée nationale, ça devient une chambre d'enregistrement de la politique du gouvernement. Ils ont de moins en moins d'autorité. Et du coup, le Conseil constitutionnel, qui à la base était un garde-fou contre le Parlement, devient un garde-fou contre le gouvernement et le président de la République eux-mêmes. Et ça devient un organe politique. Ça devient un contre-pouvoir politique et plus un contre-pouvoir technique pour arrêter, éviter des dérives.
Alors, on en est là et on sait que depuis 1974 et cette espèce de coup d'État comme le dit un auditeur de Radio Courtoisie, du coup d'État du Conseil constitutionnel très énervé contre le président de l'époque et qui a décidé sur notamment le regroupement familial de procéder à une décision qui contrevenait en fait aux souhaits du président de la République. Mmh. Donc Valéry Giscard d'Estaing s'est mangé le mur et depuis le Conseil constitutionnel a des ailes et il se sent capable de voler. Nous allons accueillir, merci pour cette première partie de Restons Courtois, nous allons accueillir Pierre de Nicolaï qui est avec nous et qui est délégué départemental de l'UDR dans l'Allier et notamment qui a été élu à Moulins si je ne m'abuse. Bonjour Pierre de Nicolaï.
Bonjour,
délégué départemental adjoint de l'UDR. Voilà, mais merci d'avoir la modestie d'ajouter cet adjectif. Pierre de Nicolaï, voilà, justement, vous êtes vous en train de concourir pour les sénatoriales, dans l'espoir que le Rassemblement national et ses alliés UDR, par exemple, puissent enfin constituer un groupe au Sénat. Voilà, pour le moment, il y a trois sénateurs RN dans tout le Sénat. Rappelons que il y a 40% des Français qui votent Rassemblement national. Donc là, on a l'impression que le Sénat, qui est censé représenter véritablement les communes, est très éloigné de la carte électorale, de la carte municipale. Pourquoi l'UDR veut-il rentrer au Sénat? Est-ce là aussi pour aider à constituer ce groupe? Quels sont les objectifs de l'UDR dans cette élection-là?
L'objectif, c'est de rentrer au Sénat et de pouvoir, avec nos alliés du Rassemblement national, défendre les idées de la droite nationale. Vous soulignez justement effectivement le décalage qu'il peut y avoir entre le choix des électeurs et la représentation au Sénat. Si on prend l'exemple de l'Allier aux dernières élections européennes, sur les 317 communes, 311 ont voté pour le Rassemblement national en tête. Donc on voit bien qu'il y a un décalage entre effectivement ce pourquoi votent les Bourbonnais, donc c'est comme ça qu'on appelle les habitants de l'Allier, et la représentation au Sénat. Et donc c'est le message qu'on fait passer aux grands électeurs qu'on rencontre. Donc effectivement, on est sur le terrain, on parcourt le département entre Moulins, Montluçon, Vichy, donc on a évidemment un programme qu'on expose, mais ce qu'on dit aux grands électeurs, entre autres, c'est quelles que soient vos idées politiques, vous avez été élu par vos électeurs et vous devez les représenter, donc vous avez droit à deux bulletins de vote pour l'élection sénatoriale, vous pouvez en mettre un pour vos convictions personnelles, mais deux, pensez à vos électeurs, au fait qu'ils soient représentés, parce que notre département est un département très rural, l'Allier. Le choix est très clair lors des dernières élections européennes. Et donc, vos électeurs qui vous ont élus méritent d'être également représentés au Sénat. Donc, c'est très important pour nous de pouvoir rentrer au Sénat, avoir un groupe et défendre les intérêts de l'Allier et des Français en général.
Alors, Pierre de Nicolaï, justement, nous parlions immigration avec Maître de Genvry à l'instant, donc il y a notamment des difficultés à organiser ce référendum sur l'immigration que promet Marine Le Pen sur le droit du sol, l'expulsion des étrangers délinquants, la restriction du droit d'asile, la priorité nationale, notamment en matière de logement social. Vous qui êtes un élu de terrain, comment l'Allier vit-il l'immigration ?
Oui, mais on aurait tort de penser que parce que l'Allier est un département rural, on est préservé des problématiques qu'il y a dans les grandes villes. On le voit bien donc plus près à Clermont, qui est une ville qui est devenue vraiment très compliquée à vivre, mais ces problématiques d'immigration, on les constate dans les différentes villes de l'Allier. Donc, je vous donne l'exemple de Moulins, où effectivement, il est courant de voir effectivement des jeunes zonés de manière parfois agressive. Et quand on est une femme à Moulins, le soir, on ne se sent pas forcément en sécurité si on veut rentrer. Donc, c'est quelque chose qui touche l'immigration, toutes les communes, même des petites, des villes de taille moyenne. Donc, Moulins, à peu près, environ 20 000 habitants. Donc, c'est quelque chose de très important. Et nous, pour la dernière campagne municipale, donc, on a mené une liste d'Union des droites UDR-RN. Nous avons fait campagne sur le thème de la sécurité, qui était un thème important, faire que Moulins soit une ville sûre. On agit complètement au quotidien. Donc, de manière concrète, par exemple, au conseil municipal, donc, on a seulement. Il faudrait qu'il y ait 20 policiers municipaux à Moulins. Donc, le bon ratio, c'est environ un policier municipal pour 1000 habitants. Nous, on est seulement à 10. Donc, c'est un des messages importants qu'on met en avant. Il faut recruter davantage de policiers municipaux, en avoir 20, pour permettre aux Moulinois de pouvoir rentrer le soir, faire calme, enfin, lutter contre les incivilités. Donc, c'est quelque chose, nous, qu'on défend localement. La municipalité, par le passé, a subventionné des associations pro-migrants comme Ville Thaïs. Donc, ça a été un sujet des précédentes mandatures. Donc, c'est des sujets sur lesquels on est vigilant dans l'attribution des subventions, faire en sorte que des subventions ne soient pas données à des associations qui pourraient être contre les intérêts des Moulinois. Comme je vous disais, les problèmes d'insécurité qui sont indirectement ou directement liés à l'immigration, on les constate dans l'Allier, donc on est particulièrement vigilant là-dessus.
Cette vigilance, et c'était évidemment le rôle des élus d'opposition de signaler que on peut organiser autrement la vie municipale. Avez-vous l'impression que le référendum sur l'immigration et ce qu'appellent les Français de leur vœu, avez-vous l'impression que on ne peut pas s'en sortir dans l'état actuel des lois et surtout dans la manière actuelle qu'a la justice d'appliquer ces lois?
Oui, ça semble compliqué, comme disait Maître de Janvry, mais en tout cas, moi, ce qui m'importe en tant qu'élu local, c'est de faire remonter les aspirations des Bourbonnais. Et effectivement, il y a parfois le sentiment qu'aller voter, ça ne sert à rien, parce qu'on a beau voter pour un programme, si ça ne peut pas être appliqué, ça ne sert à rien. Donc en tout cas, il y a une réelle frustration par rapport au fait que les sondages le montrent, les Français le veulent, dans l'Allier, c'est très clair. On veut un référendum sur l'immigration, on veut que des choses soient faites pour améliorer le quotidien. Surtout que beaucoup de gens en zone rurale ont du mal à joindre les deux bouts. Par exemple, à Moulins, le taux de pauvreté est près de 20%. Donc, il y a un sentiment d'injustice qui est tangible, où les gens se disent effectivement, moi, je me lève, je travaille dur. Le matin, je cotise et je m'en sors moins bien que quelqu'un qui ne travaille pas ou quelqu'un qui vient d'arriver sur le territoire. Il y a cette frustration et ce souhait, effectivement, des Bourbonnais de mettre en place un référendum sur l'immigration.
Merci Pierre de Nicolaï. Maître de Janvry, Marine Le Pen a justement déclaré, pour revenir sur notre conversation de tout à l'heure, mais qui touche directement ce référendum, touche directement la manière dont le Sénat peut fonctionner, etc. Elle a déclaré revenir sur les nominations au Conseil constitutionnel, la Banque de France, etc. Autrement dit, tout l'appareil macronien et socialiste qui a été mis en place depuis des années, avec des centaines et même des milliers de nominations sur des sièges prétendument inamovibles, avec des mandats qui durent sans qu'on puisse intervenir 5, 6, 7 ans. Est-ce que là aussi, c'est une possibilité d'action? Est-ce que le Rassemblement national a la possibilité institutionnelle, constitutionnelle, administrative d'exercer son pouvoir?
Alors, excusez-moi, qu'est-ce qu'elle a dit exactement,
Marine Alors, Le Pen? C'est un auditeur de Radio Courtoisie qui nous dit « Marine Le Pen a déclaré vouloir revenir sur les nominations au Conseil constitutionnel à la Banque de France, etc. » Est-ce que cela peut s'envisager sérieusement?
Alors, il y a deux choses. Il y a Conseil constitutionnel, c'est une chose, et ensuite, il y a les grands établissements publics français. sur les grands postes comme Banque de France ou ce genre de choses, ça c'est une loi. Ça peut se faire assez facilement. En revanche, modifier le mode de nomination des membres du Conseil constitutionnel, là il y a un problème. C'est la Constitution elle-même. Donc il faut, on revient au même sujet. Il faut changer la Constitution. Et là, changer le mode de nomination du Conseil constitutionnel, on pourrait le faire avec l'article 11, mais on arrive de nouveau à une crise politique, selon moi. C'est-à-dire que là, c'est une 6e République. On n'est plus sur la 5e. Enfin, on passe sur autre chose. Donc c'est faisable. Tout à fait. Mais là, on va vraiment sur quelque chose de nouveau. On est obligé de changer. La cause de la 5e République, on l'a déjà pas mal modifiée depuis 1958. Déjà, l'élection du président de la République au suffrage universel, c'était un gros changement. De passer d'un septennat au quinquennat, c'est un gros changement. Là, si on commence à toucher au Conseil constitutionnel en plus, c'est plus la même chose, en fait.
Mais c'est parce que aussi que le Conseil constitutionnel n'est plus la même chose. Il est d'un instrument technique, il est devenu un outil politique aux mains d'adversaires déclarés du pouvoir en place.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais c'est pas une critique, bien sûr, de changer de république. C'est tout à fait faisable. Et on peut s'interroger sur cette opportunité à la suite des dérives que l'on constate dans la pratique des institutions qui n'ont plus rien à voir. Passer d'un septennat au quinquennat, on voit bien que le président, on l'a vu surtout avec Nicolas Sarkozy et Macron, sont des super présidents. Ils sont bien plus puissants que De Gaulle ne l'était en 1960.
Et dont la gauche déjà à l'époque expliquait qu'il était un dictateur.
Voilà. Exactement. Par contre, quand Mitterrand lui était au pouvoir, c'était plutôt un dictateur.
Mais c'est pas la même chose. C'est comme le bon chasseur et le mauvais chasseur, comme dans le sketch des Inconnus, ou le bon milliardaire et le mauvais milliardaire. Le bon milliardaire, c'est un type comme Mathieu Pigas. Il est pété de thunes, il a des médias, il s'en sert pour son combat, et c'est un bon milliardaire. Et le mauvais milliardaire, c'est Mathieu Bolloré, Vincent Bolloré. Il a de l'argent. Il a des médias, il s'en sert pour son combat, mais lui, c'est un mauvais milliardaire. Pierre de Nicolaï, sur le terrain, lorsque les Français entendent ce genre de débat juridique absolument passionnant, et on leur dit « ça c'est possible, ça c'est pas possible », est-ce qu'il n'y a pas une espèce de lassitude de la population française où on leur dit à chaque fois « ce que vous désirez, ce que vous aimeriez changer ?» Non, pas du tout. Il y a une hiérarchie des normes. Il y a des gens, une fois plus, aussi vertueux que Richard Ferrand, Laurent Fabius et Alain Juppé, qui savent mieux vous ce que c'est que la morale, l'éthique et l'état de droit, et donc vous allez vous faire l'enlair avec vos bêtes aspirations de démocratie directe. Et sur le terrain, avec ceux qui seront vos électeurs au moment des sénatoriales, avec ceux qui sont vos administrés en tant que conseiller municipal, est-ce que vous sentez que la lassitude des Français, ou au contraire la résignation, ou au contraire un désintérêt absolu pour ces questions-là?
C'est un mélange, mais effectivement, lassitude, désintérêt, c'est également un peu perdu. Enfin, c'est très intéressant, effectivement, le débat, mais c'est très technique. Et globalement, les électeurs, en fait, ne sont pas intéressés par, entre guillemets, les détails techniques. Ce qui les intéresse, c'est le résultat final. Et eux, voilà, il y a une obligation de résultat. Le moyen utilisé importe peu. Mais voilà, cette déconnexion qu'il peut y avoir entre les élus et ce à quoi ils aspirent, enfin, conduit également à de la lassitude. Puis on se dit, à quoi ça sert d'aller voter, parce que voilà, on va débattre pendant des mois, et puis finalement, le Conseil constitutionnel peut invalider. Donc c'est
le Conseil constitutionnel, l'Union européenne ou le CEDH qui interviennent et qui cassent toute réforme pour lequel le peuple a élu le président de la République dans le cas de Marine Le Pen en 2027.
Tout à fait. Et vous-même, en tant qu'élu local, il y a ce pourquoi vous êtes élu, il y a ce que décide le conseil municipal, et puis brusquement, il y a la communauté de communes, ou les échelons supérieurs, ou même le préfet qui explique que tel arrêté municipal est nul et non avenu, ou que, en fait, la gestion de l'eau est arrachée à la commune et confiée. Là aussi, en fait, il y a un appétit démocratique qui est constamment réfréné, en fait, par les institutions telles qu'elles ont été mises en place.
Oui, c'est moi qui viens du secteur privé, donc je découvre également l'enfer administratif qui peut y avoir sur le terrain. Il y a beaucoup de termes techniques, d'acronymes, Et c'est effectivement, même en tant qu'élu, on peut être perdu. Donc, je me dis, qu'en est-il des électeurs? Et toute la complexité dont vous parliez, on la retrouve effectivement au niveau local, avec différents échelons et des normes en fait, qui empêchent effectivement d'agir concrètement. Donc ça, c'est un souhait que l'on a au niveau de l'UDR, c'est de fluidifier, de réduire les échelons et faire en sorte que ça soit à la fois pour les élus, pour les électeurs, et d'être plus efficace. Quand moi, je viens du secteur privé, je vois la différence, effectivement, quand on veut faire que l'organisation est beaucoup plus claire, la prise de décision, parce que ce qu'on reproche aussi, c'est l'opacité qu'il peut y avoir dans la gouvernance, du fait de tous ces échelons administratifs qui parfois se contredisent. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut éduquer déjà soi-même, pour être sûr de bien comprendre tout le fonctionnement, éduquer les électeurs et pousser pour une simplification de toutes ces strates. Non, je pense qu'on peut supprimer les échelons et gagner en efficacité. Ça permettrait également de faire des économies, parce que globalement, la tendance en France, c'est qu'il n'y a plus d'argent. On le ressent aussi au niveau local. Et donc, il y a un vrai travail à faire pour gagner en efficacité, en transparence, et permettre d'exécuter de manière plus rapide et transparente. Ouais.
Merci. Tristan de Genvry.
Oui, merci. Je rebondis sur ce que Pierre de Nicolaï vient de dire. C'est vrai que la France, c'est un cas un peu particulier. Déjà, il y a 36 000 communes. Alors, il y a plus de communes en France que dans l'ensemble de l'Union européenne. Ensuite, il y a les échelons administratifs locaux. Donc, il y a l'arrondissement, il y a la commune, il y a la communauté de communes, il y a l'établissement public intercommunal, il y a la métropole, il y a le département, il y a la région. Ça devient un enfer administratif. C'est-à-dire qu'on ne sait même plus où aller. Ça coûte une fortune parce que avant le fonctionnaire d'une grosse mairie, il faisait plein de choses, puis finalement on a sorti une compétence de la commune, on l'a donnée à la région, donc ce monsieur on l'a mis à la région, mais en fait la mairie, ce monsieur il faisait les deux, donc on a dû rembaucher quelqu'un à la mairie, et c'est souvent c'est très régulièrement critiqué, hein,
mais ce n'est jamais modifié, et au contraire la masse des fonctionnaires territoriaux ne cesse d'augmenter,
absolument colossal. Et d'ailleurs Pierre de Nicolaï a raison de le pointer, c'est un des problèmes de l'UDR. Dans l'UDR, on propose de supprimer les régions et les métropoles en créant une collectivité territoriale unique. Ça, c'est indispensable. Ça devient illisible. Et d'ailleurs, quand on parle de démocratie, c'est intéressant, parce qu'encore, les régions, les départements et les communes, ça c'est élu, les représentants sont élus par le suffrage universel, mais pas les métropoles. Les métropoles, la métropole de Nice, hein, et c'est, tout ça, ça c'est, ils sont élus par les conseillers municipaux.
Donc, mais exactement comme les sénateurs. Et vous trouvez que les élections sénatoriales ne sont pas des élections démocratiques, Maître de Genvry?
Alors,
Chopin de Genvry, pardon.
Alors, c'est un peu différent, parce que le Sénat...
J'espère que Pierre de Nicolaï va se battre pour prouver à quel point, malgré tout, c'est démocratique.
Ah non, le Sénat, c'est un petit peu différent, parce qu'en fait, ça a toujours été que dans toutes les républiques, toutes les démocraties, on a toujours voulu deux chambres du Parlement. Donc, il y avait une chambre qui était élue au suffrage universel direct, c'est ce qu'on appelle la chambre basse. Et on a toujours voulu une chambre haute qui... Mais justement, on n'a pas le dernier mot. Précisément, c'est toujours la chambre élue au suffrage universel direct qui a le dernier mot, pour apporter un contre-pouvoir. Donc, en Angleterre, c'est les lords. En fait, historiquement, c'était la noblesse qui avait le contrôle de cette chambre sous la Restauration. En Angleterre, c'est le cas. Et en France, dans la République, on a dit finalement, ce sera les élus locaux qui vont élire cette chambre haute. Donc non, ça reste démocratique. Mais je vais revenir aux échelons locaux. C'est qu'il y en a déjà beaucoup, et on en rajoute, mais qui ont un pouvoir qui, eux-mêmes, finalement, c'est un peu étriqué. C'est-à-dire qu'ils sont, plus élus par le peuple, donc finalement, les gens ne les connaissent pas, puisqu'ils ne sont pas élus par eux directement. Donc ça, oui, ça crée une illisibilité supplémentaire.
Pierre de Nicolaï, dans le... Ah pardon, excuse-moi, je vous ai interrompu.
Moi, j'ai juste rebondir sur ce que disait Maître Genvry, sur le... Effectivement, il y a beaucoup d'échelons, mais quelque chose d'important à retenir, c'est que vraiment... L'échelon qui est vraiment indispensable et qu'il faut maintenir, c'est l'échelon du maire. On l'a vu pendant la crise du Covid. Quel était le point de contact? Quand il y avait un problème, vers qui on s'adressait? C'est le maire qui joue vraiment un rôle. Effectivement, être maire rural, c'est vraiment un sacerdoce. Donc, pendant le Covid, s'occuper par exemple d'opérer les masques, quand il y a un problème d'une vache qui s'échappe, un poteau, c'est la faute du maire. Donc, ils sont extrêmement présents et c'est vraiment un échelon qu'il faut maintenir. Et beaucoup d'ailleurs regrettent effectivement qu'il n'y ait plus la possibilité de cumuler les mandats, donc d'être à la fois député et maire, parce que c'était quelque chose d'assez sain qui permettait d'avoir des élus au Parlement qui sont vraiment des représentants du peuple, qui sont au contact régulier de leurs administrés. Donc, effectivement, le sentiment que le peut être représenté peut-être indirectement lié à en tout cas, nous, on se bat pour que les électeurs et les grands électeurs représentent notre mouvement politique au Sénat, parce que c'est aux dernières élections, si on regarde les dernières élections législatives, le Rassemblement national avait fait 2% dans l'Allier. Donc, quand on regarde là et on voit le fait que dans toutes les communes, sur 311 communes, sur 317, le Rassemblement national arrive en tête.
Visiblement, il y a un problème démocratique. Je voudrais revenir justement sur ce problème démocratique et cette question du référendum. On sent qu'il y a de la part des grands administrateurs de l'État, de la part d'un certain nombre d'institutions comme le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, d'une manière générale dans toute la haute administration et même la basse administration et dans certaines villes, l'idée d'une désobéissance civile du fait que, comme le dit l'excellent Sophie Binet, présidente de la CGT ou secrétaire générale de la CGT, je ne sais pas comment ça s'appelle, que en fait le pouvoir du Rassemblement national serait forcément un pouvoir illégitime et donc il faut désobéir, faire pièce, etc. Admettons que Marine Le Pen soit élue, admettons qu'on la laisse organiser, elle lance son idée de référendum. Le Conseil constitutionnel explique que ce référendum n'est pas possible. Marine Le Pen dit vous êtes gentil, mais en fait c'est le peuple qui est souverain, on l'organise quand même. Et par exemple, la ville de Moulins, qui est une ville qui n'est pas Rassemblement national, décide de ne pas organiser le référendum. Qu'est-ce qu'on fait ?
Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Bon, après, je pense qu'il y a souvent, c'est une technique effectivement de nos opposants de dire effectivement, voilà, c'est Rassemblement national élu, ça sera terrible. Il s'est passé la même chose lors de la première élection de Trump aux États-Unis. Et ça n'a pas été le chaos. Mais donc moi, je ne pense pas que ça se produise. Et je pense que les institutions, je l'espère, seront respectées.
Alors, j'apporte une petite nuance. C'est, si le Conseil constitutionnel annule le décret organisant le référendum, moi, c'est sûr que les communes vont suivre le Conseil constitutionnel. Et elles auraient raison de le faire, parce que c'est le droit.
Mais non, alors c'est ça que je trouve fascinant. Parce qu'en fait, il y a le droit, mais il y a l'esprit, une fois plus, de la Constitution. Dire, un Conseil constitutionnel non élu, composé d'adversaires déclarés du Rassemblement national, explique que le peuple souverain, en fait, ce n'est rien par rapport à la volonté de M. Richard Ferrand. Et les élus municipaux pourraient très très bien décider de dire, mais en fait, la seule vérité démocratique, c'est justement ceux qui sont élus, et nous décidons d'organiser un référendum. Et une fois que le référendum a lieu, et une fois que le référendum donne les résultats qu'on peut attendre, c'est le Conseil constitutionnel qui est mis au pied du mur. Parce que après tout, le Conseil constitutionnel n'a le pouvoir qu'on veut bien lui concéder. C'est-à-dire, on décide de ne pas écouter le Conseil constitutionnel, tout va bien, quoi.
Alors, il se l'est concédé lui-même.
Filez-moi les règles.
Son sujet, il se l'est donné lui-même, le pouvoir. Malheureusement, c'est un peu le problème des cours suprêmes. C'est qu'elles sont au sommet. Donc, si vous voulez contester une décision, malheureusement, en l'état, pas possible.
Mais si, c'est possible, parce que c'est un pouvoir qu'elle s'est arrogé elle-même. Il suffit de revenir, justement, avec un bataillon de juristes sur les règles de droit.
Mais devant qui ? C'est ça le problème.
Devant le peuple, en disant, c'est pas grave, Richard Ferrand parle, mais c'est comme un tambour crevé. Ça n'a aucun intérêt.
Mais là, on arrive...
Si je peux me permettre.
Là, on arrive à
si Richard Ferrand m'écoute, comme il le fait d'habitude.
Mais là, on arrive à une crise des institutions. Je vous entends sur le côté moral, politique, je suis 100%, je vois très bien. Mais juridiquement, malheureusement, en l'État, il s'est arrogé ce pouvoir. S'il dit, j'annule ce décret... En l'État, on est obligé de se plier. Si on ne veut pas se plier, la seule solution, c'est de nouveau, alors là, de dire, on change la Constitution.
Alors, j'ai le plaisir d'accueillir dans Charles-Henri Gallois, donc le conseiller économique de Jordan Bardella. Merci mille fois à Pierre de Nicolaï et à Tristan Chopin-Janvry d'avoir été avec nous. Bien sûr, vous êtes bienvenus, vous pouvez rester. Juste avant qu'il ne s'en aille, Charles-Henri Gallois, sur cette question du référendum, du pouvoir du Conseil constitutionnel, voilà, à votre avis, comment ça va se passer ?
J'entends l'argument qui nous dit que ce serait difficile par article 11, mais si on raisonne par l'absurde, si on considère que l'article 11 n'est pas valide, ça veut dire que toutes les élections présidentielles depuis 1962 ne seraient pas valides. Et donc je pense qu'en démocratie, la Cour suprême est le seul souverain, c'est le peuple, et que rien ne doit pouvoir s'opposer à un référendum. Je veux dire, le Conseil constitutionnel devrait revenir à ce qu'il était, c'est-à-dire des lois votées par les parlementaires, qu'il y ait des contrôles de constitutionnalité, mais moi je suis même favorable à ce que ces changements constitutionnels soient essentiellement par référendum, parce qu'à la fin, c'est le souverain qui décide. En démocratie, le souverain, c'est le peuple, et il n'y a aucune raison que ce soit des juges nommés, souvent très politisés, qui décident de ce sur quoi le peuple français ou non aurait le droit de s'exprimer. Ça me paraît complètement antidémocratique, et je pense qu'on va avoir beaucoup de Français qui seront d'accord avec nous sur ces questions-là.